Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés pour la reprise de nos petites questions mensuelles. Et en ce moment, l'actualité, malheureusement, nous porte vers un autre registre qui est celle de devoir envisager le conflit à l'intérieur de nos pensées structurelles géostratégiques.
La guerre, l'axe de l'histoire, l'axe de l'histoire, disait De Gaulle, la guerre.
Voilà, donc beaucoup d'entre vous se sont légitimement posé la question de quel allait être l'impact de ce conflit sur nos recommandations sur l'or, sur nos recommandations en plus sur les ETF énergétiques.
Oui.
Et donc, j'ai les questions suivantes à te poser. Bien sûr, impact de la guerre Israël-Iran et son éventuel élargissement. Certains ont des questions sur l'or. Le pétrole va-t-il monter? Faut-il continuer à acheter le pétrole qui augmente fortement? Quel est le prix, à votre avis, du baril maximum auquel il faut s'attendre?
Alors, on va essayer de réfléchir. Encore une fois, ce qui compte, ce qu'on essaye de faire avec vous, hein, c'est la construction d'un portefeuille. Bon. Donc dans ce portefeuille, on met des valeurs antifragiles, l'or, un machin robuste, qui est le cash, et des actifs qui peuvent être fragiles, comme des actions. Donc on a ces trois choses dans votre portefeuille. Alors dans les actions, la ligne centrale, ça a été de dire... Tout va se passer dans le cercle de Valérie Pierris, vous vous souvenez, cette espèce de cercle autour de Hong Kong, puisque c'est là qu'il y a toute la croissance mondiale, c'est là qu'il y a toute l'épargne mondiale. Vous pouvez le jouer en prenant des ETF en Chine, ce qu'on a fait parce que c'était la chose la plus simple, ou vous pouvez le jouer aussi en achetant, encore une fois, des Schneider, des Air Liquide qui seront là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend de votre PEA, etc. Bon, ça, c'est la partie vraiment dynamique de votre portefeuille, c'est là-dessus qu'on espère gagner de quoi vous faire 5 ou 6% par an réel, ce qui est notre but. Quel est le risque dans ce scénario? C'est que, comme toujours, les grandes baisses se passent toujours quand le prix de l'énergie monte. Vous m'avez souvent entendu dire que l'économie, c'est de l'énergie transformée. Bon, et je suis en train de travailler dessus, d'ailleurs, vous le verrez peut-être dans les semaines qui viennent. Toutes les grandes baisses historiques dans les marchés se sont passées avec le marché qui faisait moins bien que le pétrole. C'est-à-dire, si le marché commence à faire moins bien que le pétrole, ça veut dire que tu transformes plus l'énergie de façon rentable. Mm-hmm. Et donc, il y a des gens qui vont perdre du fric. Et si l'énergie monte encore un peu, ils vont en perdre encore plus, etc. Donc, tous les grands cracks, celui de 73, 74, etc., se sont toujours passés avec l'énergie qui monte. Donc, quel est le risque dans votre portefeuille en temps réel ? Comme je suis bien incapable de savoir quand cette foutue énergie va monter, c'est d'avoir une espèce de hedge contre l'énergie qui monte. Donc on avait pris les valeurs pétrolières américaines en partant du principe que c'était probablement celle qui était le mieux protégée politiquement, en quelque sorte, parce que ben, y a personne ne va aller faire la guerre aux États-Unis, et puis en plus ils sont autosuffisants énergétiquement, et puis ils aiment bien la valeur de pétrole, et puis Exxon... Si j'ose dire, à de quoi se faire entendre à Washington, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, ils ont quelques conseillers là-bas qui doivent, hein. Donc, la partie fragile de votre portefeuille, c'était donc la croissance et une protection contre cette croissance, tu vois ce que je veux dire? En partant du principe que si la croissance continuait normalement, bah, le prix du pétrole allait monter, mais qu'il n'allait pas avoir de rupture de volume. Parce que ce qui compte dans l'énergie, ce qui fait les grandes baisses, c'est pas tellement les grandes hausses de prix. C'est que d'un seul coup, il n'y en a plus assez. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a, tu dis, à n'importe quel prix, il n'y en a plus, quoi. Et à ce moment-là, c'est là où l'économie se viande de 1 point. Si tu ne manques 10% d'énergie, ben, ton économie, elle va baisser de 10%. Alors que si le prix double et qu'il y a toujours de l'énergie, elle baissera de 3 ou 4. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas du tout la même chose. Donc, c'était une espèce de protection contre un risque de rupture en volume. Alors, on a pris la gamelle du siècle, enfin, on a pris une belle gamelle. Quand on a cru que la dépression arrivait avec les tarifs, tu te souviens les...
Enfin là, c'est tout à fait un peu n'importe quoi. C'est monté, c'est descendu, c'est allé à droite, c'est allé à gauche, on n'a pas compris.
Enfin, depuis quelques temps, ça remonte. Et bon, donc ça va, ben, on retrouve. Alors, il y a le dollar qui a baissé parce que tout le monde est sorti du dollar pour acheter de l'euro, ce qui est une idée curieuse.
Oui, alors, enfin... attention, beaucoup de gens, et je le vois titrer chez des journalistes qui écrivent avec leurs pieds, comme d'habitude, l'euro monte, l'euro monte. Non, l'euro ne monte pas, c'est le dollar qui baisse, parce que les gens sortent de leur position en dollar et rapatrient l'argent.
En demandant ce qu'ils vont faire après.
Après, l'euro n'est pas structurellement monté, c'est juste des baignoires.
Il y a beaucoup de gens qui sont. Tout le monde était aux États-Unis, tout le monde avait été aux États-Unis, et tout le monde se dit ciel.
Ils font n'importe quoi, on est à l'aube d'une guerre mondiale.
J'imaginais que le pétrole monte beaucoup, pour une raison X, Y ou Z. Et il va falloir quand même beaucoup acheter ce pétrole en dollars, parce qu'il est quand même beaucoup en dollars, le pétrole, plus complètement, mais il est encore. Donc aussi bien si le pétrole se monte, le dollar va monter aussi.
Oui, dans un second temps.
Dans un second temps. Donc, si vous voulez, tous ces gens qui se précipitent pour vendre le dollar...
Oui, mais les gens qui vendent le dollar, c'était des gens qui étaient sur le S&P, qui jouaient Nvidia et ainsi de suite. Et d'un coup, là, ils se disent, bon, je vais pas prendre mes hausses sur le S&P.
J'ai vendu Nvidia, j'ai vendu le Nasdaq, je me retrouve avec les dollars, mais j'ai pas de raison de les garder, donc je les ramène à la maison. Voilà. Pouf, ça fait monter la monnaie. Bon, donc ça, c'est la première partie de la portefeuille, c'est la partie active. Maintenant, venons à l'or. Alors l'or, on en avait parlé dans une émission récente, c'est un machin qui monte, vous prenez ce que j'appelle le double déficit aux États-Unis, c'est-à-dire la balance des paiements plus la balance, plus le budget, qui est un déficit de 11%. Bon, si vous voulez, quand les États-Unis doivent emprunter 11% de leur PIB année après année, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, ça veut dire qu'il y aura beaucoup, beaucoup d'émissions de marché obligataire. Donc, c'est pas les obligations qui vont manquer. Il va pas y avoir une pénurie d'obligations américaines. Et comme l'autre réserve de valeur historique, c'était l'or, le prix relatif des deux va changer. Si la quantité d'or monte pas et si la quantité d'obligations émises monte beaucoup, l'or va monter pour se remettre à la hauteur des obligations. Tu vois ce que je veux dire? Donc, là, c'est une protection, l'or, contre ce que j'appelle une politique qui me paraît de plus en plus irresponsable aux États-Unis. Si les États-Unis ont un problème financier, il n'y a peut-être pas grand-chose qui va monter pendant quelque temps, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est le... Et puis la dernière partie de votre portefeuille, c'est ce foutu yen qui est très occupé à ne rien faire. On l'avait dit, on avait dit ça peut prendre 3-4
ans.
Oui. Et il est là.
J'ai quelqu'un sur le site qui très intelligemment a fait une étude comparative des retours de parité des pouvoirs d'achat et qui a fait des études. Et en gros, on était sur 374 jours ou un truc comme ça. C'est-à-dire que. Et là, on en est à 260 en ce qui nous concerne. Donc, historiquement, ça prend jusqu'à un an pour avoir
Ça peut prendre un temps. Moi, j'en ai même connu des plus longs. Mais ce qu'il y a, c'est que...
Oui, c'est une sorte de moyenne pondérée.
Ce que je sais, c'est que quand ça va péter à la hausse, ça va péter d'un seul coup. C'est-à-dire que ou vous serez dedans ou vous l'aurez raté. Quoi. C'est ça, toujours la même chose. Et encore une fois, ça, c'est ce que j'appelle la partie... robuste de votre portefeuille, celle qui est censée ne pas bouger. C'est-à-dire que si les marchés se pètent la gueule d'un seul coup, à ce moment-là, vous irez tirer sur cette poche pour aller acheter des marchés qui ont beaucoup baissé.
Oui.
Tu vois, c'est automatiquement le système du rebalancement. Donc, votre portefeuille, c'est une espèce de machin. On a essayé de réfléchir et on s'est dit, on va bâtir un truc qui résistera à peu près à tout ce qu'on peut imaginer, quoi. Mais qui aura quand même ce potentiel de croissance qui viendra de l'Asie. Bon. Pour l'instant, ça crapote, ça monte gentiment, ou ça. Bon, ça... On vérifie avec Léonard, on se retrouve entre 3% et 10% selon le moment où vous avez acheté, quoi. Parce que c'est important, ça aussi. Moi, je vous dis, quand j'étais gérant, il y avait des types pour qui je gérais, qui n'avaient pas de chance. Il y en avait qui avaient toujours de la chance. Ils m'amenaient toujours du pognon au moment où il fallait que j'en. Rentrer, et puis il y en a d'autres qui m'amènent toujours du pognon quand il fallait en vendre. Donc, il faut avoir de la chance. C'est ce que disait Napoléon de ses généraux. Quoi. Bon.
Donc, c'est un peu Perrin, oui, parfois.
Il faut pas avoir Perrin dans son équipe de gestion. Pour l'instant, le portefeuille est bâti pour ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Alors, je vais faire maintenant. une intervention dont je suis sûr qu'elle me va, elle va me valoir beaucoup de, d'emails hostiles, mais je vais vous dire les choses telles que je les vois en utilisant mon logos. Vous savez, vous avez le logos qui est la logique, hein, vous avez le pathos qui est le fait que c'est très mal la guerre, et vous avez l'éthos qui est, mon Dieu, ce serait mieux si les gens étaient vertueux, quoi, tu vois, c'est, donc moi j'ai toujours essayé de pas tomber dans le pathos et pas tomber dans l'éthos, parce qu'à ce moment-là, l'éthos, vous restez dans votre petite maison dans la campagne et vous trouvez que le monde, il n'est pas très bien et vous allez nulle part. Quoi. C'est, en quelque sorte, l'intellectuel a les mains propres, mais il n'a pas de main, quoi, donc c'est pas bien utile. Donc, logos. Donc, ce que je dis aujourd'hui, c'est que, et j'ai des débats à l'intérieur de ma propre firme, je dis ça, je dis, écoutez, l'Iran, la théocratie en Iran est un régime abominable. L'a toujours été. L'article, je ne sais pas combien, de la constitution iranienne, c'est que le but de l'État iranien, c'est de détruire Israël. Complètement. Le génocide.
D'annihiler
complètement. C'est dans le préambule de leur constitution aussi. Et ça fait depuis que Giscard et Carter avaient habilement déposer le chat pour amener Khomeini, ça fait 40 ans qu'ils foutent le merdier au Moyen-Orient. Avec le Hezbollah, le Fatah, le Hamas, la Syrie, l'Irak, ils ont foutu un merdier pas possible. Donc, j'ai l'impression, en utilisant mon logos, mais là j'essaye de ne pas avoir de préférence, que le coup du 7 octobre, ça a été un machin où les Israéliens se sont dit « Non mais ces couillons-là sont sérieux, ils veulent vraiment nous tuer. » Tu vois, ils sont dit « Non mais avant ils croyaient que c'était des paroles verbales, tu vois, que c'était bon. » Donc le 7 octobre, ça a été le truc, et donc
Donc tu rattaches le 7 octobre à l'Iran ?
Je rattache complètement, puisque jamais ça n'aurait eu lieu sans
je fais pas à part. Donc, en fait, tu fais 7 octobre, Hamas-Iran.
Ils avaient été entraînés par l'Iran.
D'accord.
Ils avaient été...
juste pour que le téléspectateur suive.
Absolument. Personne n'a jamais mis le moindre doute que ça avait été autorisé par l'Iran. Bon. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que dans les deux ans qui suivent, Israël se paye le Hamas, avec, moi qu'on puisse dire, c'est qu'il se le paye bien, le Fatah, le Hezbollah au Liban, font tomber la Syrie, qui était aussi des chiites, enfin des alawites, pour que, s'il y a une guerre avec l'Iran, l'Iran ne puisse pas faire donner ses supplétifs. Tu vois, que la guerre soit avec l'Iran et pas avec des tas de gens qui foutraient le merdier. Bon. Maintenant, la guerre est engagée. Et je suis persuadé que les Iraniens et que les Israéliens vont finir par faire sauter toutes les capacités de production de pétrole de l'Iran pour qu'ils aient plus un rond. Parce que le seul pognon qu'ils aient, c'est celui qu'ils avaient des exportations de pétrole.
Oui, bien sûr.
Qui était en beaucoup, 1,5 million de barils par jour, à la Chine d'ailleurs, ça finit en Chine. Enfin, les Chinois, ils trouvent de l'autre pétrole acheté, ils ont dû faire des réserves aussi. Donc le but aujourd'hui de l'Iran, et j'ai l'impression assez peu caché des États-Unis...
Non, d'Israël, tu veux dire.
Le but d'Israël, c'est de se débarrasser des mollahs.
Oui.
D'ailleurs... Netanyahou fait des appels à la population iranienne en disant « Mais débarrassez-vous de ces couillons, il est temps. » Et les Américains font semblant de ne pas être là. Enfin, ils envoient quand même 3 avions ravitailleurs.
Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais on voit bien quand même qu'il y a deux choses à séparer. Tu as la bande de Gaza et ce qui peut...
Non, c'est la même chose tout ça.
Non. Vis-à-vis de l'opinion internationale...
Ah non, mais sur l'opinion internationale, les Israéliens, ils n'en ont rien à foutre.
Oui, mais je ne sais pas... Alors voilà, c'est parce
qu'il y a eu...
Attends, il y a eu le 7 octobre, Ensuite, il y a eu le déclenchement des hostilités territoriales, locales, et ce qui peut se passer à Gaza. Et dans un second temps maintenant, ce qui se passe en Iran. Je pense que la communauté internationale est tout à fait prête à entendre, effectivement, que l'Iran pourrait être une saloperie et qu'il faudrait se débarrasser de ce problème.
Mais c'est quoi la communauté internationale ? Je ne sais pas si tu as remarqué, sans vouloir être... que la communauté internationale, elle se passe à Paris, au Palais Bourbon, mais qu'il n'y a pas un État arabe qui est venu de loin ou de près à l'aide de la bande de Gaza. Par exemple, ils pouvaient ouvrir la porte vers l'Égypte. Jusqu'en 1966, Gaza était territoire égyptien. C'est les Israéliens qui l'ont conquis. Et ils ont affaire, à mon avis, de le rendre à l'Égypte tout de suite, d'ailleurs, mais qu'ils ne voulaient surtout pas. Parce que, et donc... là, les fusées qui partent d'Iran pour essayer d'attaquer Israël, elles sont descendues par la Jordanie, par la Syrie, parce qu'il ne faut pas oublier que la Syrie, les amis des Iraniens, là, qui étaient au pouvoir, les Al-Assad, ils ont tué 600 000 Syriens. Donc, le pouvoir actuel en Syrie n'a qu'une idée, c'est de se venger de l'Iran. Donc l'idée, si tu veux, qu'il y a une communauté internationale qui est représentée par LFI, c'est ce qu'on nous dit à Paris. Ça n'existe pas, la communauté internationale.
Je suis d'accord que la communauté internationale per se n'existe pas, mais on sait quand même qu'il y a des populations civiles qui sont au milieu et que la façon dont Israël les traite la façon dont ça se passe est peut-être...
Je sais
qu'il n'y a pas de guerre sans victimes, mais je pense que pour moi, il faut véritablement scinder le conflit de Gaza et ce qui se passe en Iran.
Non, le conflit de Gaza, ils ont tué tout le monde aussi. Ils ont liquidé aussi tout le Hezbollah, il est passé au Liban. D'ailleurs, le gouvernement libanais a fait savoir au Hezbollah qu'il fallait que le Hezbollah se désarme. Parce que c'était un État dans l'État, etc. Donc ça veut dire que... ben voilà, c'est fini. Il n'y a plus ces espèces de contre-pouvoirs. Et pour revenir à Gaza, tout le monde me dit ce que fait Israël. Mais la raison, c'est qu'est-ce qui permet aux gens de penser que le Hamas représente la population palestinienne à Gaza.
Je ne dis pas que le Hamas représente la population palestinienne, je dis juste qu'il y a des femmes, des enfants, des civils.
Il y a des femmes, des enfants, mais encore une fois, si tu regardes un petit peu les faits, il se trouve que toutes les réserves de munitions, etc., du Hamas sont sous des écoles, sous des hôpitaux.
Oui, c'était ce qu'on avait vu dans le port de Beyrouth pour le Hezbollah
donc,
aussi.
Donc c'est toujours pareil. À partir du
ils
moment
se cachent
où
au milieu
mets...
de la population civile, on le sait.
C'est
leur grande façon de faire.
C'est leur grande façon de faire. Donc bon, oui, il y a des victimes civiles, mais ils en sont responsables au moins autant que les...
À partir du moment où tu caches ces munitions-là,
oui. Le Hamas, ça n'est qu'un... Ce qui se passe à Gaza, ça n'est qu'un... Comment dire, ça fait partie d'un plan d'ensemble.
Poussons plus loin.
Si on réussit, il y a deux possibilités maintenant qui vont arriver.
Si ça sort par le haut et qu'on arrive à se débarrasser de l'Iran, des Mollahs.
Alors à ce moment-là, les Mollahs ont tout fait pour empêcher qu'il y ait ce qu'on avait appelé les accords d'Abraham. De permettre, dans le fond, que cette espèce d'immense arc dont j'ai souvent parlé, qui part...
Euro-asiatique.
Qui part de la Crimée, qui passe en Russie, qui passe ensuite en Syrie, qui va vers l'Irak, qui passe ensuite en Iran et qui arrive jusqu'au Pakistan, cette espèce d'immense arc comme ça, qui était maintenu en état de guerre par l'Iran depuis 40 ans, connaissent la paix et qu'à ce moment-là, il va y avoir un développement absolument gigantesque de toute cette zone. À ce moment-là, si on se débarrasse des Iraniens, on se retrouvera avec à peu près, je crois, moi, ils sont 80-90 millions, les Iraniens. Il doit y avoir, je ne sais pas combien, 130 millions de Turcs. Il doit y avoir les Syriens, tout ça. Mais 400 millions de personnes faciles, là, qui peuvent d'un seul coup se mettre au travail, commercer les uns avec les autres. Donc ça va être un boom inimaginable. D'autant plus que l'Arabie Saoudite a tous les ponts pour les... Donc, si on réussit à se débarrasser, à retransférer l'Iran dans le cœur des, dans le corps des nations normales, quoi, pas des nations génocidaires, ce qu'ils sont. C'est extraordinairement positif. Donc, aussi curieux que ça paraisse, j'ai rarement été aussi positif de ma vie. Parce que ça fait 40 ans que je vois les Iraniens tout foutre en l'air avec beaucoup de... Et si on se réussit à se débarrasser... C'est des Hitler, ces gars-là, hein, c'est rien d'autre. Hein. Ils ont tué des centaines de milliers d'Iraniens. C'est des assassins, c'est des criminels, c'est des voleurs, c'est des...
C'est vrai que la condition de la femme en Iran, sous les mollahs, n'était pas...
Et la justice et tout ça, donc c'est la deuxième possibilité...
Qu'est-ce que tu penses en termes de... J'ouvre un peu, après on reviendra sur nos sujets économiques, mais de l'acquisition ou non de l'arme nucléaire
par
de
l'Iran?
Leur part, oui.
Ah, mais c'est complètement possible, ça. Puisque... pour une raison très simple, c'est qu'ils ont ils cherchent l'arme nucléaire, et leur but numéro un dans leur constitution, c'est d'éradiquer Israël. Donc, tu sais que s'ils ont l'arme nucléaire, ces crétins vont l'utiliser. Ils vont la filer à je ne sais quelle Hamas, et qu'ils la mettront dans un banlieue de Tel Aviv, et qu'ils le feront sauter. Donc, la différence, la plupart des gens qui ont l'arme nucléaire, c'est qu'ils savent très bien qu'ils ne doivent pas s'en servir. Mais avec l'Iran, tu sais très bien qu'ils s'en serviront. Donc, il est hors de question de laisser l'avoir. C'est exactement comme quand Hitler avait envahi la Ruhr, et que nos hommes politiques se sont couchés en disant « non, on va rien faire ». Il y a des moments où il faut rentrer, où la guerre est...
C'est marrant que tu fasses, tu l'as pas dû l'écouter, mais Ben Soussan, ce week-end, l'historien, faisait exactement le même parallèle avec la Ruhr aussi.
Ben évidemment. Ouais. Ben, quand t'as des fous qui sont au pouvoir, qui se maintiennent au pouvoir de façon abominable, et qu'ils ont déclaré que leur ennemi... Ils vont le liquider avec l'arme nucléaire. Ils vont le liquider.
Par tous les moyens.
Par tous les moyens. J'ai écouté Fillon qui disait qu'il avait une conversation quand il était Premier ministre avec, je ne sais plus quel ayatollah, le président de la République, qui lui avait dit comme ça, Monsieur Fillon, Monsieur le Premier ministre, ce qui est embêtant, c'est Israël. Et Fillon lui dit, ah oui, pourquoi? Il dit, bah parce qu'il faut quand même qu'ils s'en aillent, quoi. Et Fillon lui dit, où est-ce qu'ils vont aller? L'essentiel, c'est qu'il ne soit plus là, quoi. Donc, le but du président de la République numéro un, c'était de liquider Israël. Alors, les gens me disent, les Israéliens, c'est tous des gens qui sont arrivés d'Odessa, des Ashkénazes et tout. Je leur dis, certes, certes, mais il y avait 900 000 juifs en Irak, en Iran, en Algérie, au Maroc, etc. Il n'y en a plus un. Donc, il y a beaucoup des juifs qui sont en Israël, qui sont des Moyens-Orientaux. Ils sont pas tous ashkénazes, quoi. Arrêtez vos conneries, quoi.
Oui, non.
Donc, ça a été juste une purification ethnique qui s'est faite dans le monde arabe de tous les juifs qu'il y avait, tous les chrétiens d'ailleurs, et dont un certain nombre se retrouvent en Israël.
Oui.
Donc, je vais essayer de dire, et l'autre possibilité, c'est quand la population iranienne ne réussisse pas à se débarrasser de ses assassins, et que l'Iran reste comme une espèce d'État raté, comme l'est le Pakistan. Tu vois, ce qui serait bien dommage, parce que si l'État se retourne, l'Iran se retourne, on peut peut-être aussi retourner le Pakistan. Mais s'il y a deux États failed comme ça, l'un à côté de l'autre, ça va, c'est quand même une espèce de grosse blessure purulente, là, qui continuera à purulent. Mais je pense pas, parce que les Iraniens, c'est pas les Pakistanais, ils sont quand même beaucoup plus, c'est un grand pays, ils ont des universités, pareil, quoi.
Oui.
Donc j'espère qu'ils vont se débarrasser. Donc pour moi, si on apprend maintenant que ça y est, ils réussissent à se débarrasser de leur molla, à ce moment-là, the sky is the limit. Je veux dire, les arbres vont monter au ciel.
Ça sera
donc quelque part toute ma carrière a été marquée, parce que ça a commencé en 78-79, j'étais jeune.
Ah oui, c'était le chat, oui.
Par cette espèce de...
Le dernier, pas la vie.
De purulence qui venait toujours de l'Iran, des assassinats, des trucs, mais jamais officiellement. Si vous avez toujours un Palestinien de service qui allait faire leur saloperie, mais l'Iran disait, nous, on n'intervient jamais dans les affaires des autres, je t'en prie. Donc, si tu veux, ce serait, pour parler en termes religieux, ce serait une grosse défaite du diable.
Bon, ben voilà, refermons. J'imagine que tu vas la traiter un petit peu avec Léona aussi.
Oui, bien sûr,
pas
bien
mal
sûr.
Cet après-midi, parce que ça fait partie des grands sujets, et puis vous allez peut-être sûrement
mais
parler.
Mais à ce moment-là, ça va peut-être dire que le pétrole va baisser. Il va peut-être monter au début, pendant qu'on le liquide, mais ensuite, une fois que tu vas pouvoir faire des trous partout et que...
Si, on peut recommencer à faire des trous partout, mais cela dit...
Ça prendra du temps, mais...
Ça prendra du temps, parce que dans l'étude des cycles de l'énergie...
On n'a pas fait beaucoup de trous. Hein.
On n'a pas fait beaucoup de trous, et le temps qu'un trou commence à donner...
C'est 5 ans.
Voilà, c'est un peu comme de lancer une centrale nucléaire. Donc, oui, le pétrole pourrait baisser, mais pas tout de suite.
Pas tout de suite, on aura le temps de le voir.
Voilà, et là, pour l'instant, entre le conflit international et...
Parce que je ne suis pas du tout certain que cette analyse que je fais soit la bonne. Il y a des tas de gens, comme ton frère, par exemple, qui pensent qu'ils vont bloquer le détroit d'Ormuz, que ça va partir en guerre.
Là, normalement, le détroit d'Ormuz est en train d'être bloqué, là où on parle.
Ben oui, mais tu sais, comme tu as Bahreïn qui est juste en face et que tu as la plus grosse base militaire américaine qui est juste à 30 km, je crois que celui qui bloque le détroit d'Ormuz, il va être vitrifié vite fait, hein.
L'autre question, c'est que plus que jamais, on l'avait vu et on en a parlé, c'est que la Chine et les autres pays asiatiques qui avaient souffert au moment du Covid du fait que le détroit d'Ormuz était bloqué avaient commencé justement à activer tous ces réseaux pour dire les gars, on va passer par la terre parce qu'il s'agirait pas qu'on se retrouve marron encore une fois.
Une deuxième fois.
Voilà. Donc ça relance cette carte.
Et tu remarques que la Chine et la Russie sont
La Chine, qui, je le rappelle, achète tout son pétrole.
Pas tout son pétrole, 1,5 million de barils par jour, c'est rien.
Ouais, quand même pas mal. À l'Iran, a dit qu'elle stand du côté de l'Iran.
Elle dit oui, qu'elle aimerait que qu'elle stand du côté de l'Iran, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va envoyer des troupes ou des bateaux.
Non, elle dit qu'ils sont copains.
Ils sont copains, voilà.
Oui, voilà.
Mais s'il y a un autre gouvernement qui arrive en Chine...
Elle sera copain aussi.
Elle sera très copine tout de suite, je ne fais aucun souci.
Oui, voilà. Alors, revenons un peu à nos moutons en termes d'économie réelle. Une des questions. Les pays occidentaux volent les richesses et ont volé les richesses des Russes et d'autres pays du moment qu'ils considèrent être en guerre. N'avez-vous pas peur que les actifs que vous placez à l'étranger comme la Chine ne fassent la même chose si le conflit persiste? Alors, la question c'est, est-ce que vous pensez que nos gouvernements peuvent être très cons? Alors, à cette question, force est de répondre, évidemment que oui.
Bien évidemment.
Alors, cela étant dit, maintenant, si on commence à aller réquisitionner tous les biens des uns et des autres...
Il y a deux questions. Il y a la question de, est-ce que les Chinois vont prendre mon pognon? La réponse est non. Est-ce que les Français vont essayer de prendre le pognon que j'ai mis en Chine? La réponse est peut-être. Ils vont essayer. Parce que...
Bon, après, cette question ne marque... Enfin, je pense que le sous-jacent, c'est de dire si la Chine attaque Taïwan. Or, la Chine ne va pas attaquer Taïwan. Arrêtez de vous faire beurrer le mou par des journalistes mal informés qui ne sont pas sortis
surtout
de leur bureau.
Surtout quand ils voient le succès des opérations militaires ici ou là. Parce que s'ils se retrouvent avec un Ukraine, avec Taïwan... les Chinois, ça va pas les aider, hein. Donc ils ont pas besoin de ça.
Non, je pense pas qu'ils aient besoin de ça, et c'est vraiment pas à l'ordre du jour pour tout un tas de raisons.
C'est pas dans leur mentalité, ils sont pas très guerriers. Hein.
C'est pas à l'ordre du jour. Donc la question, est-ce qu'on va se faire choper notre pognon par la Chine? Non.
Par le gouvernement français, si c'est des... Ils peuvent essayer. Moi, ça s'est produit en cas de guerre, si tu veux. Par exemple, une grosse partie des actions. Mais les autres peuvent aussi vous piquer votre pognon. Je veux dire par là, quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, Air Liquide existait déjà. Et ils avaient une très très grosse filiale aux États-Unis qui s'appelait Liquid Air.
C'était pas emmerdé pour trouver un nom.
Eh ben, imagine-toi que les Américains, comme la France était devenue un pays un peu hostile, ils ont décidé de piquer Liquid Air, qui est maintenant une des principaux concurrentes d'Air Liquide.
Ah.
Donc, tu peux avoir aussi des manœuvres habiles.
Fair enough.
Tu vois, c'est... il y a deux choses qui disparaissent en cas de guerre. Hein. Le premier, c'est la vérité, tout de suite. Le deuxième, c'est le droit de propriété. Là, c'est deux choses qui sont. Donc, il vaut mieux à ce moment-là, peut-être, je sais pas.
Bah, il reste l'or, mais.
Il reste l'or et il reste peut-être, je sais pas, Nestlé. Ouais, tu vois ce que je veux dire? On va pas. On peut te piquer tes actions Nestlé.
Alors, on l'a plus ou moins dit, mais je vais te le refaire redire. Comment expliquez-vous que les marchés européens soient au plus haut alors que tout va mal, économie, géopolitique?
Ah ben ça, c'est... Ça fait à peu près 5 ans que je dis ça. Vous avez des actifs qui sont des contrats, vous avez les obligations, là. Puis vous avez des actifs comme Air Liquide, Schneider, qui sont des droits de propriété. Ce que vous avez en contrat, ce qui donne de la valeur au contrat, c'est la monnaie dans laquelle elle est, et ce contrat. Ben, si la monnaie va à zéro, t'as prêté de l'argent à l'État français, si l'euro va à zéro, ou de façon asymptotique vers zéro, quoi, ça vaut rien. Donc si t'es un type qui a vraiment du pognon, tu te dis, il faut que j'ai zéro en obligation, il faut que je mette tout en action. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les taux d'intérêt montent, les obligations perdent, et le marché des actions lui passe au travers du toit parce que c'est un peu comme de l'or. Ça vaudra toujours quelque chose. Donc, ce que je dis aux gens, j'appelle ça le portefeuille turc. Ce qu'il faut avoir aujourd'hui si on est européen, c'est littéralement des portefeuilles turcs où tu es en or et en actions. Mais en actions qui n'ont rien à voir avec ton pays.
Oui. Alors, ça rejoint la question que Smad te pose à la suite. Il a une question pour le marché des actions. Est-ce qu'il est préférable d'avoir un portefeuille composé d'actions offensives ou défensives?
Il faut avoir des actions, par exemple, dans la discussion qu'on a eue sur l'Angleterre. J'ai montré que tu pouvais faire sur le FT 100, c'est-à-dire les 100 plus grosses valeurs anglaises. Tu as à peu près 37 valeurs qui ont tout leur business en Angleterre. Au milieu, tu as à peu près 25 valeurs qui ont à peu près tout leur business en Angleterre ou en Europe. Et puis, tu te restes à peu près une trentaine de valeurs qui ont tout leur business en dehors d'Europe. Si tu prends depuis la sortie de l'Angleterre du marché commun, de l'euro, là, les premières sont en baisse de 10%, celles qui sont toutes en Angleterre. Celles qui sont toutes en Europe, elles sont en hausse de 80%. Et celles qui sont complètement dehors d'Angleterre, en dehors de l'Europe, sont en hausse de 300%. Donc, ce que je veux dire, si je reviens à la même chose, c'est il faut pas avoir des actions offensives ou défensives, il faut avoir des actions qui soient pas dans le pays dont la monnaie va disparaître. Tu vois ce que je veux dire? C'est enfin que leur chiffre d'affaires ailleurs, quoi.
Alors, on revient un peu sur ce dont on parlait, mais on va l'anglais un petit peu. Donc, imaginons, il y a une escalade au Moyen-Orient, il y a donc un chamboulement des chaînes logistiques et une récession économique aux États-Unis parce que, voilà.
Aux États-Unis, ils sont
autosuffisants
autosuffisants énergétiquement,
énergétiquement,
donc ça ne va pas leur faire beaucoup d'effet. Non, là. Les pays qui se retrouveraient dans une situation difficile, c'est les pays européens, parce que c'est là où il y a le plus gros déficit.
Alors, quels seraient dans ces cas-là, comment se comporteraient les différents actifs de notre portefeuille idéal? Alors, revenons, sachant que notre portefeuille idéal, donc l'or, a priori, continuerait à faire très bien,
Surtout en monnaie locale.
surtout, voilà. Les ETF énergétiques, a priori.
Oui, ils vous donnent, par exemple, je pense, parle toujours de Total, mais enfin, ça vous donne du
Exxon.
7%.
Voilà.
Exxon vous donne du 4%. Donc, c'est mieux que les obligations. Donc, bah, ça, vous regardez ça comme un truc qui.
Les
Vous
ETF
achetez de l'échange, vous achetez de l'essence. Vous voyez, en
qui.
vous
Oui.
disant, j'ai besoin d'essence pour rouler. Là, j'ai acheté des très belles voitures, mais ça ne me sert à rien si je n'ai pas d'essence. Donc, j'achète de l'essence, et en partant du principe que si je peux plus rouler avec celle-là, ben celle-là, le montrons, quoi. Je veux dire, c'est un peu votre stock d'essence.
Donc, il y a les ETF qui jouent la croissance asiatique.
Cela, ils vont très bien, merci.
Elles iront très bien toujours, même s'il y a un grand chambardement au Moyen-Orient,
Parce que
parce
maintenant, ils
que.
travaillent beaucoup plus entre eux. Ils
Oui.
parlent plus avec le Moyen-Orient, ils parlent plus aux autres, ils parlent entre eux maintenant.
Et bon, ils trouveront du pétrole, ça ira. Et qu'est-ce qui nous reste? Et le Japon, ben, et le Japon, il faut
Mais le
qu'il.
Japon, ils ont un problème, c'est que maintenant leur taux d'inflation est à 3,5%, ce qui n'est pas acceptable.
Ils ont donné des. Pour le petit, ils ont donné des stocks de riz pour les petits gens. Ils ont distribué des quotas de riz.
Le quota de riz, parce que comment ça? Parce que 3,5%, c'est pas acceptable. Mais pourquoi ils ont 3,5% d'inflation? Parce qu'ils ont maintenu les taux d'intérêt à zéro pendant des années. Donc maintenant, il faut que le Japon prenne le mort aux dents et monte les taux d'intérêt un bon coup et qu'on arrête toutes ces bêtises de taux zéro, quoi.
Alors, j'ai une question un peu bizarre, mais comme je ne l'ai jamais croisée dans ma vie jusqu'à présent, je la pose. Quelqu'un aimerait bien avoir ton avis sur le franc Pacifique. Si l'euro s'effondre, comment ça se passe pour cette monnaie quand tu habites en Polynésie française?
Bon, elle est branchée sur l'euro, j'imagine.
Oui, hein, c'est comme le franc CFA, ça.
C'est comme le franc CFA. Le franc CFA, ça, oui, je me demande si c'est un peu encore un truc bizarre.
Là, c'est 119,33 FCP pour 1 euro. Il faudrait qu'il dévalue parce que 119, c'est pas pratique. T'as 2
C'est pas
euros.
pratique. Bah, écoute. Mon ignorance ne dispute que mon incompétence. On va se renseigner.
On va se renseigner sur la question.
Je vais vous dire un truc, je savais même pas qu'il existait ce franc, ce franc machin-là.
Bah écoute, c'est la première fois que je le croise.
Mais moi aussi. Tiens, je savais même pas. Bah, j'avais travaillé le franc CFA, je l'ai croisé.
Non, mais je pensais qu'en Polynésie, ils avaient l'euro aussi, du coup. Bah c'est français.
Oui, c'est français.
Pourquoi ils n'auraient pas l'euro? Je me suis jamais posé la question, mais ils ont visiblement. Je suis jamais allé. J'ai pas. Je me suis pas posé la question.
Est-ce que c'est aussi le cas en.
À Papette?
Non, à Papette, oui, mais je pense là où il y a des émeutes tout le temps. Là, l'autre, celle qui est à côté de Nouvelle-Zélande.
Oui. Ah bah je sais pas. Bah je sais pas.
Bah je sais pas. Bah on va s'enseigner. Tiens, mais, très
comme
bonne
ça,
question.
On apprend tous les jours.
Mais on est nul sur le sujet, donc on va cesser d'essayer d'être nul.
Voilà. Alors, Michel Tremblay te pose la question suivante. Comment croyez-vous que l'économie canadienne va se tirer de la récession qui s'annonce aux États-Unis? Et croyez-vous que le Premier ministre Carney va dans la bonne direction avec ses nouvelles dispositions qu'il veut prendre concernant l'exploitation des hydrocarbures?
Alors ça, le Canada, c'est très compliqué. Alors, je vais essayer de résumer rapidement ce que je comprends du Canada. C'est que vous avez une province qui produit une grosse partie de l'énergie, hein. Et puis vous avez toutes les autres qui, dans le fond, trouvent que la province qui produit toute l'énergie paye pas assez d'impôts, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une province qui est riche, et cette province qui est riche se dit « Et pourquoi je rejoindrais pas les États-Unis ?» Il y a des... Tu vois, c'est parce que comme ça, j'aurais plus affaire avec le Québec, tous ces gens qui me demandent du pognon. Donc, le Canada est un pays en... Parce que la constitution canadienne fait que les grands États canadiens, le Saskatchewan, l'Alberta, tout ça, ils sont quand même très autonomes. Donc, la question c'est, est-ce que le Canada va rester un pays? Ou est-ce qu'il va se rompre avec une partie qui rejoint les États-Unis? C'est pas tranché. C'est pour ça que tout le monde se moquait de Trump quand il a posé la question, mais c'est pas tranché du tout. Et le vrai problème du Canada, il y en a eu deux avec le jeune Castro dit Trudeau, là. C'est qu'il a laissé rentrer tout le monde, donc il y a une espèce d'explosion d'immigration, mais absolument
effrayante. Tous les gens qui passent, Romain, qui travaille avec nous, avait fait ses études à HEC Montréal, et il est revenu là récemment, 8 ans après, et il a dit, mais c'est... Oh, j'ai jamais vu ça. L'explosion...
L'explosion de la... Alors c'est aussi pour empêcher le Québec de demander son indépendance, parce que tous ces gens-là vont... Donc on sait pourquoi ils l'ont fait. Et la deuxième chose, c'est qu'il a pris des mesures écologiques complètement débiles, qui fait que le Canada, qui était producteur d'énergie et tout, lui s'est retrouvé... Donc, il y a un vrai problème au Canada, c'est qu'ils ont été gouvernés...
Avec les pieds.
Par un crétin, le jeune Trudeau.
Avec un agenda...
Avec un agenda complètement écolo, et que ça a foutu l'économie canadienne en l'air, quoi. Donc maintenant, il faut que Carney réussisse à contrôler l'immigration et à revenir vers une économie... Qu'est-ce qu'ils ont de bien le Canada? Ils ont plein d'eau, ils ont plein de matières premières. Et tout ça, ils doivent l'exporter. Et on a tout fait pour l'empêcher d'exporter parce qu'il y avait des grenouilles à trempate ou je sais pas quoi, des trucs idiots.
Le truc habituel, oui.
Le truc habituel. Donc, le Canada, ça a été le pays qui a été le plus woke de tous les pays. Donc, il faut d'abord qu'ils sortent de ça. Mais par contre, ils ont tout pour s'en sortir.
C'est vrai que, à hauteur des universités, on l'a vu, il y a eu à chaque fois qu'il y avait des histoires, la mort moelle-neuve sur je veux m'appeler Jean-Pierre, mais en fait, je suis Simone, et en vrai, je voudrais avoir une licorne magique, et ainsi de suite. Ça se passait au Canada, quoi.
Ouais, et ils ont donné aussi l'euthanasie, et ils tuent des gamins. Enfin, je veux dire, il y a des trucs qui se passent au Canada qui sont.
Je crois que si un enfant voulait changer de genre...
On mettait les parents en prison s'ils l'ont refusé.
Dès l'âge de 12 ans, du gamin.
Donc le gamin, il ne peut pas voter, mais il peut...
Il ne peut pas voter, il ne peut pas conduire, mais il peut choisir son sexe.
Il peut choisir son sexe et décider que non, il n'est pas un garçon, il est une fille, ou j'en sais rien. Donc le Canada a atteint des sommets de conneries. Quoi. Donc ce qu'il faut surveiller au Canada, c'est la monnaie, le taux de change, parce qu'il est extraordinairement bas, parce qu'il y a toutes ces conneries, évidemment. Si d'un seul coup il se met à remonter, ça veut dire que Carnet
va dans le bon sens.
Va dans le bon sens. Donc vous regardez le dollar américain contre le dollar canadien, et s'il commence à remonter gentiment, vous dites tiens donc, parce qu'il n'est pas cher.
D'accord. Bon, c'est bien. Alors, Xavier Bertin te pose la question suivante. Bah, d'abord, bonjour et merci de nous rendre autonomes dans la gestion de nos économies. Comment suivre la bonne ou mauvaise santé économique de la Chine en termes d'actualité économique ou d'indicateurs ? Quels sont les indicateurs que Kidam peut regarder pour anticiper une croissance ou un crack ? Tous les jours, un petit peu. Enfin, bon, tous les jours.
Tous les jours, qu'est-ce que vous regardez ? Vous regardez les grands indices de la bourse chinoise, des actions. Parce que l'analyse que je fais, c'est que les taux d'intérêt sur le 10 ans sont à 1,4%. C'était le meilleur marché obligataire depuis 10 ans, partout dans le monde. 1,4%. Donc, je suis bien certain que la rentabilité des affaires en Chine, produisant en Chine, est supérieure à 1,4. Donc, la rentabilité du capital est au-dessus du coût du capital. Quand ça se passe, historiquement, la bourse monte. Donc, si la bourse baisse alors que les taux sont à 1,3 ou 1,4, ça veut dire que la rentabilité du capital est en train de s'écrouler, et donc c'est bonne chose. Donc vous regardez les grands indices boursiers, et puis vous suivez ça tranquillement au jour le jour. Pour l'instant, il crapote à la hausse, il monte doucement, il monte deux jours de 0,50, puis il baisse d'un jour de 0,30 et tout ça. Mais enfin, ça a été, sur les 12 derniers mois, je crois, je me trompe peut-être, le meilleur marché au monde. Tu vois, à force pendant que personne regardait, il monte. Donc tant qu'il monte gentiment, je suis très content. Pour moi, maintenant, c'est le truc le plus important, c'est de regarder le marché des actions.
D'accord.
Avant, c'était le marché obligataire.
Alors, tu as Fidem qui te pose une question à nouveau sur l'euro numérique et qui souhaite, la BCE souhaite introduire en octobre, pour savoir ce que tu en penses.
Bah, c'est une façon... Bah, si vous aimez l'euro numérique, vous adorerez... je ne sais pas, les caméras de surveillance dans votre chambre à coucher, pour voir exactement ce que vous faites, si vous ne faites pas des choses réprouvées par la loi. Peut-être les camps de concentration aussi. Enfin, vous voyez, c'est une tentative de plus par cette classe mondialiste de nous coller de la surveillance, parce que il n'est pas certain qu'on utilise notre argent avec sagesse. Donc il faut qu'ils puissent contrôler ça aussi.
Bien sûr.
Par exemple, je suis sûr que, je sais pas, ta deuxième fille achète trop de pâtisserie ou pains au chocolat, c'est pas bon pour elle.
C'est...
Imaginez-vous si, une fois que vous aurez tout votre pognon contrôlé, ils vont décider que vous n'avez plus le droit d'acheter de cigares. Parce que c'est pas bon pour vous. Mais je m'en fous que ça soit pas bon pour moi, si ça me fait plaisir.
Oui, bah oui, bien sûr.
Qu'est-ce qui permet à un cornio j'ai vu que le gouverneur de la Banque de France, je crois.
Monsieur de Vulpian, monsieur de Gallo.
De monsieur Villeroy de Gallo, là.
Oui, Villeroy de Gallo, pardon.
Oui.
Tu vois comment j'ai...
Oui, c'est dans le même tiroir. Je crois que... Donc, il a un appartement de fonction. Attends, non, c'est plus malin que ça. Je crois qu'il a un appartement à lui, dans lequel il... et que la Banque de France lui paye, je ne sais pas combien...
6 000 euros par mois.
Mais beaucoup plus.
Non, mais alors, il a 6 000 euros par mois en plus, quand bien même il a un appartement à lui.
Oui.
Donc, ils sont alloués 6 000 euros.
Il faut, d'après lui, il faut que quand même on se...
Oui, on se serre la ceinture.
Donc, non, mais... C'est quand je vois l'autre dépendeur d'Andouille, là...
L'Allemand
comment il s'appelle? Le ministre des Finances aussi, je me dis.
Ah, Lombard.
Lombard. Entre Lombard et Villeroy de Gallo, je me dis, on est sauvés, les gars. Ils vont nous apprendre à économiser de l'argent. Monsieur qu'on n'a plus, puisqu'ils nous ont répliqué.
Monsieur Lombard, qui a la plus grosse fortune. Oui, je crois qu'il a 26 millions.
Oui, surtout qu'il a, c'est arrivé par l'héritage.
Ouais.
On ne peut pas penser qu'il l'a gagné.
À l'inverse de Rachida Dati. Alors, une des dernières questions. C'est assez important parce que, comme quoi l'économie fluctue, et d'ailleurs je suis toujours impressionnée d'avoir des gens qui sont capables de me dire « Ah mais voyez, je suis content que Charles finalement recommande de l'or parce qu'avant il ne recommandait pas de l'or ». Bah, évidemment, l'économie, c'est pas quelque chose, enfin, la bourse, c'est pas quelque chose de statique. Il y a des moments où il faut en avoir, il y a des moments où il faut pas en avoir, il y a des moments où il faut en avoir. Bon. Et il en est pareil dans la vie des indices bancaires. Alors, il y a 3-4 ans, on vous disait, faites attention aux banques parce que, non, même il y a 2 ans, parce qu'il s'était passé des trucs en Californie, ainsi de suite. Et aujourd'hui, donc, on aimerait savoir.
Très bien performé.
Alors, comment vont les banques? Comment va l'indice?
Alors, les banques, elles sont beaucoup montées. C'est même ce qui a monté le plus. Ton frère en a acheté. Moi, j'ai pas. Alors, les banques, si vous voulez, pour moi, il y a quelque chose qui est très favorable pour elles, quand même. C'est que si on a ce boom qui se passe dans le Moyen-Orient et dans le Valéry Spiri Circle là-bas, ben, les booms, ça se passe toujours avec une augmentation du crédit considérable, et donc les banques gagnent beaucoup d'argent.
Bien sûr. Donc, il faut bien passer par quelqu'un pour faire l'intermédiaire financier.
C'est leur boulot. Donc, ça va boomer, et donc, on rentre dans un monde, à partir du moment où la croissance économique revient et où il y aura des dépenses d'infrastructures, les banques vont gagner de l'argent, c'est sûr, quoi.
Voilà, donc il y a quelques temps, on vous disait, faites attention, les banques peuvent faire faillite, et ainsi de suite. C'est plus le cas, honnêtement, sauf si...
Les pays qui soutiennent les banques peuvent faire faillite, parce que ce qui s'est passé, c'est que le risque des faillites des banques a été transmis à l'État. C'est-à-dire que la BCE, l'État, ont financé les banques à tiroir ouvert pour éviter qu'elle ne fasse faillite.
Oui, pourquoi? Parce que les taux zéro.
Parce que,
évidemment, comme vous voulez que les pauvres banques et les assurances-vie, dans certaines mesures, se rémunèrent, quand vous mettez des taux zéro, à partir du moment où les taux, là, ont remonté à un niveau qui leur permette quand même de vivre, tout va mieux. Le jour où ces crétins pourraient décider de remettre des taux à zéro...
Ça, c'est pas demain la veille, parce qu'ils ont vu les dégâts.
Apprennent-ils?
Pour moi, les banques, c'est pas vraiment le problème. Ça l'a été
ça
il y a
3-4
ans. Alors, pour moi, le problème, c'est qu'il y a une industrie qui s'est développée à cause des taux zéro, qui plombait les banques à l'époque, qui était tout ce qui est le capital risque. Les fonds de capital risque, etc. Donc, les KKR et toutes ces grosses sociétés, Blackstone, et c'est plus de 5000 milliards d'euros de capital qui a été déployé par ces gars-là. Et ils ont quand même... ils achètent des sociétés où leur société, ce qu'ils ont dans le bilan est valorisé à ce qu'on appelle 12, 13, 14 fois le EBITDA, tu sais, c'est-à-dire les marges brutes, etc. Bon. Et les sociétés qui sont cotées de même taille, mais qui sont cotées en bourse, mettons les petites et moyennes capitalisations, elles sont à 5 ou 6 fois l'EBITDA. Donc tu te dis, j'ai un léger problème, j'ai des trucs qui ne sont pas cotés où on me dit que ça vaut 12, et des trucs qui sont cotés qui ressemblent beaucoup, que ça vaut 6. Mm-hmm. Et les types qui me disent, ça vaut 12 là, ils disent, je vais les vendre ensuite à d'autres personnes à 14. Mais les gens vont se dire, moi j'achète pas celle-là à 6 plutôt que celle-là à 14. Donc aujourd'hui, dans le système financier, le risque le plus important, c'est ces fonds. Là, parce que 5000 milliards de dollars, c'est énormément de pognon, et ils font un peu comme Madoff, c'est eux qui disent que ça vaut 12. Mmh. Mais t'en sais rien, ça vaut 12.
Oui.
Donc, Je me demande s'il n'y a pas
un loup caché dans le placard.
C'est dans le placard, et si les taux montent et où s'ils réussissent pas à trouver des gens pour leur acheter ces titres, et alors ce qu'ils font, s'ils sont
donc on aurait un peu une bulle comme il y a eu à l'époque sur les pharmaceutiques ou des trucs comme ça sur Internet dans les années 2000.
Voilà,
moi je l'ai connu, celle-là.
Sur la biologie, etc. Mmh. Donc ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'en plus, comme ils sont copains, t'as une société qui vend une toute partie de sa société à 30 fois l'EBITDA, tu vois, puis l'autre qui fait la même chose de l'autre côté, ce qui permet ensuite de mettre tout le monde à 30 fois l'EBITDA. Donc, quand c'est toi qui fais la valorisation de tes achats, c'est pas difficile d'être un gérant. C'est pas la même chose que de regarder dans le prix de marché tous les jours. Donc, cette histoire-là, je vais peut-être en parler encore à nouveau dans le futur. On va voir ce qui se passe, mais... C'est plus les banques qui me font peur, c'est ces machins-là, quoi. C'est là où il y a peut-être le loup, quoi.
Des bulles spéculatives qui pourraient burst.
Comme ces gens-là ont beaucoup emprunté aux banques.
Par accessoire. Alors oui, c'est ce qui s'était passé en Californie l'an dernier.
Paf.
Parce que quand c'est des banques très spécialisées qui n'ont que ça, elles sont par définition fragiles.
Fragiles. Et donc, là, tu peux te ramasser une claque simplement. Donc, ce que j'aime pas dans les banques, c'est que finalement, tu comprends très bien leur business, mais tu comprends pas très bien ce qu'elles ont comme actifs ou ce qu'elles ont, par exemple, tous ces produits structurés qui ont été vendus par les banques, dont on a parlé beaucoup ici, ça vaut rien, quoi. C'est que des saloperies. Donc, ce qui me fait peur dans les banques, c'est que c'est très opaque. Mmh. Et les compagnies d'assurance, encore plus. C'est pour ça qu'il y a un très bon gérant à Paris, dont je tairai le nom, je l'aime beaucoup aussi, mais enfin, ça fait rien. Lui, il gère, il dit, moi, je veux bien gérer votre pognon, mais à condition que je ne mets jamais ni de banque, ni de compagnie d'assurance, parce que personne n'y retrouvera, parce qu'une chatte, il ne retrouvera pas ses petits.
Oui. Je comprends. Il faut avoir des règles propres.
Il faut avoir des règles propres. Donc, moi, instinctivement, je suis un peu comme ça, quoi. Je me dis, les banques, les compagnies d'assurance, c'est...
Enfin, pour un quidam, avoir son argent aujourd'hui à la HSBC ou la Société Générale...
Aucun problème.
Non, il n'y a pas de risque, personne ne va mettre la clé sous la porte, et ça sera couvert. Le risque qu'on peut avoir, en revanche, c'est celui de l'État qui pourrait venir saisir certains dépôts et ainsi de suite. Et ça, on continue à avoir peur parce qu'ils sont à la rue et parce que malgré tout, on ne sait pas comment ils vont trouver les 50 milliards qui permettent de faire le fonds de roulement pour le service de la dette, mais ça, c'est une autre question. En tout cas, la trésorerie qui est attenante aux banques aujourd'hui va bien.
Il n'y a pas de problème.
Vous n'avez pas besoin de vous poser la question, est-ce que ma banque est suffisamment capitalisée, et ainsi de suite. Le problème ne viendra pas de là.
Et pour ceux qui les banques ne font pas peur, si vous voulez acheter DBS à Singapour et Standard & Charter à Hong Kong, HSBC à Hong Kong, c'est une façon pas plus bête qu'une autre de jouer cette énorme croissance. Moi, les banques, c'est mon... comme me disait mon vieil ami suisse, M. Gutzwiller, il m'avait dit un jour, j'étais jeune, Charles, peut-être un jour vous serez banquier, ce qui serait... C'était une grosse promotion. Et souvenez-vous qu'un banquier, ça ne doit jamais prêter à quelqu'un qui a besoin d'argent.
Oui.
Donc, moi, ma banque, c'est...
Que pour prêter aux riches.
Pour prêter aux riches. Et j'aimais beaucoup la banque Gutzwiller à l'époque. Parce que c'était une, deux ou trois banques qui restaient en Suisse qui étaient en commandite. C'est-à-dire que les dépôts que vous faisiez dans cette banque étaient garantis par le capital de la banque, ça va sans dire, mais aussi toute la fortune des actionnaires de la banque. De toutes les fortunes. Donc, ils ne prenaient pas beaucoup de risques.
Mais c'était important parce que ça veut dire que chacun était responsable sur ses actifs. Et malgré tout, ça envoie un message de responsabilisation de chacun. Et je trouve ça bien que chacun ait son mot à dire.
Que les actionnaires. Donc, j'aime bien le fait que les...
Autrefois, on voit ça chez les Médicis. On venait chercher leurs actifs personnels aussi.
Ça s'appelait... vous savez, c'était à Venise, on faisait banqueroute.
Oui,
on cassait la table, ça voulait dire banqueroute.
Tabula rasa, c'était...
Bancarota, je crois.
Bancarota,
pouf. Et ça voulait dire que ben, le type n'était plus habilité à être banquier. On lui avait enlevé sa licence.
Voilà.
On lui cassait la société. Ils étaient tous le long de la place Saint-Marc.
Voilà. Et ils faisaient ils escomptaient.
Ils échangeaient les monnaies et tout. C'était...
Voilà.
Ah, c'était bien quand c'était facile.
Ouais.
Et les produits dérivés, ça aide pas. Hein.
T'imagines. Voilà, bon bah écoutez, on a fait une bonne petite émission quand même.
L'idée de base, c'est de dire que pour l'instant, le portefeuille, bon, on a traversé des périodes difficiles, il y a eu des hausses, des baisses, etc. Et il remplit à peu près son office quand même.
Oui, on est plutôt content. Et pour ce qui est de l'évolution du monde économique, on est toujours aussi désespéré pour ce qui est de... La France, on comprend pas comment ça va passer. Si eux arrivent à voir comment ça va passer, qu'ils nous le disent, parce que pour l'instant ça passe pas. On est toujours assez désespéré sur tout ce qui est assurance vie et toutes ces questions-là, parce que malgré tout, tout ce qui est retraite aujourd'hui, on voit pas non plus comment ça peut passer.
D'un point de vue démographique, etc. Et puis en plus, 14% du PIB français va maintenant au paiement des retraites. Et ça sera 15% l'an prochain.
Ça va aller vers le haut.
16%, 17%.
On a
une pyramide inversée. Alors.
On a tout ce qu'on appelle les boomers, qui n'est pas ta génération, parce que toi, tu es un silent, mais toutes les boomers, c'est-à-dire tous les bébés nés après 39-45. Et on sait très bien que tout ça, en arrivant, ne peut pas se nourrir sur une base qui est toute petite. Et ce n'est pas en faisant rentrer des hordes de personnes. C'est pas en faisant rentrer des hordes de personnes qui ne trouvent pas d'emploi et qui restent à vivoter à la marge et qui vivent de transferts sociaux.
Et qui vivent de transferts sociaux aussi.
On va réussir à résoudre cette équation. Donc, au bout d'un moment, il faudrait faire des choix courageux et peut-être faire un peu ce qu'a fait l'Italie, c'est-à-dire resserrer les bases et faire face aussi à cette question de l'immigration clandestine et de l'immigration tout court, parce que ça n'est pas une solution et en réalité, comme ça nous permettrait peut-être d'avoir un peu d'air pour véritablement mettre les choses à plat, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, c'est un peu le problème. Voilà, bah écoutez, merci de nous avoir suivis à nouveau. N'hésitez pas à en parler autour de vous, pourquoi pas, mettre des likes. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.